Chapitre 14. Ce ne fut pas à cause d'Aulnay, mais en dépit de Ruth et de son amour pour elle, qu'il décida finalement de ne pas apprendre le latin. Le temps, c'était de l'argent. Il y avait tant de choses plus importantes que le latin, tant d'études plus urgentes. Et il devait écrire, il devait gagner de l'argent. Il n'avait toujours rien vendu. Ses innombrables manuscrits faisaient la navette entre les différents magazines. Comment les autres s'y prenaient-ils? Ils passaient de longues heures dans la salle de lecture à éplucher leurs textes d'un œil critique, en les comparant aux siens et en se creusant la cervelle pour découvrir le truc mystérieux qui leur permettait de vendre leurs œuvres. Comme tout cela lui semblait froid. Il n'y avait pas de lumière, pas de vie, pas de couleur dans cette prose. Pas une étincelle de vie. Et pourtant ça se vendait, à 2 cents le mot, $20 les 1000. Il l'avait lu dans un entrefilet. Comment pouvait-on publier des nouvelles aussi dépourvues de vitalité et de réalisme? Elles étaient habilement écrites, certes, mais la vie valait tellement mieux. Elle était si étrange, si merveilleuse, si grosse de rêves, de labeurs héroïques et d'énigmes. Alors pourquoi tant de platitudes? Où était la peine, le sang, la sueur et la révolte dans tout cela? Voilà ce qu'il voulait décrire, lui. Il voulait glorifier les champions des causes perdues, les amants maudits, les géants qui bravent l'adversité, défient la peur et le destin par de grandes entreprises. Et qu'est-ce qu'on imprimait dans les magazines? Des histoires glorifiant les monsieur Butler et autres chasseurs de dollars, de fades petites histoires d'amour entre de fades petits amants. Était-ce les rédacteurs qui se reconnaissaient dans ces poncifs, ou les auteurs et les lecteurs qui avaient peur de la vie? Mais son principal souci était son isolement. Il ne connaissait aucun rédacteur, aucun écrivain, ni même personne qui se fût jamais frotté à l'écriture et qui eût pu le conseiller sur la marche à suivre. Il commençait à douter que les rédacteurs fussent des hommes réels. Ce n'étaient que des pièces d'engrenage dans une machine. Voilà ce qu'ils étaient, des machines. Il épanchait son âme dans des histoires, des articles, des poèmes et les confiait à des machines. Il les pliait soigneusement, les mettait dans des enveloppes, les cachetait, les timbrait, ajoutait des timbres pour la réponse et glissait le tout dans la boîte aux lettres. Les manuscrits traversaient le continent et, après un certain laps de temps, le facteur les lui rapportait dans de nouvelles enveloppes affranchies avec les timbres supplémentaires qu'il avait joints à ses envois. Il n'y avait pas d'être humain à l'autre bout de la chaîne, mais une machine à changer les enveloppes et à coller les timbres. C'était comme les distributeurs automatiques. On mettait une pièce, on entendait un bruit de ferraille et clic-clac, on voyait sortir un chewing-gum ou une tablette de chocolat, au choix, selon la fente dans laquelle on avait glissé son penny. Il en allait de même avec la machine éditoriale. Il y avait une fente pour les chèques et une autre pour les mots de refus. Jusqu'ici, il avait toujours choisi la mauvaise. C'était toujours ces mots de refus qui donnaient un aspect mécanique au processus. Ils étaient imprimés sur des formulaires stéréotypés et il en avait reçu des centaines, une bonne douzaine par manuscrit. Si on lui avait envoyé ne fût-ce qu'une ligne, une seule ligne personnelle, il eût repris courage. Mais aucun rédacteur ne lui avait donné cette preuve d'existence, et il en déduisait qu'il n'y avait pas d'être humain à l'autre bout, mais seulement des engrenages bien huilés qui fonctionnaient à merveille. C'était un lutteur. Il avait assez de cœur et d'obstination pour continuer à alimenter la machine pendant des années, mais il perdait son sang. Il n'avait plus que quelques semaines devant lui pour gagner le combat. Tous les 8 jours, sa note de pension le rapprochait de sa perte et les frais d'affranchissement de ses manuscrits le saignaient aux 4 veines. Il n'achetait plus de livres et faisait des économies de bout de chandelle pour retarder l'échéance fatale. Et alors qu'il rognait déjà sur toutes ses dépenses, il trouva le moyen d'avancer sa fin d'une semaine en donnant $5 à sa sœur Marianne pour une robe. Il se débattait dans le noir, sans conseil, sans assistance, dans les affres du désespoir. Même Gertrude commençait à le regarder de travers. Au début, elle lui avait pardonné sa lubie, avec une indulgence sororale. Maintenant, elle se faisait du souci pour lui. Ce qu'elle avait pris pour une lubie tournait à la folie pure. Martin s'en rendait compte, et en souffrait davantage que des sarcasmes méprisants de Bernard Higginbotham. Mais s'il avait foi en lui, il était bien le seul. Ruth elle-même n'y croyait pas. Elle voulait qu'il se consacrât entièrement à l'étude, et, sans l'avouer ouvertement, elle désapprouvait ses travaux littéraires. Il ne s'était jamais proposé de lui montrer ses œuvres. Une sorte de pudeur l'en avait empêché. Voyant qu'elle était très prise par ses impératifs universitaires, il ne se sentait pas le droit de lui voler son temps. ce fut elle-même qui, après avoir passé son diplôme, le pria de lui faire voir un peu de ce qu'il avait écrit. Il fut à la fois ravi et inquiet. Enfin un juge digne de ce nom. Elle était licenciée S-lettres. Elle avait étudié la littérature avec de savants maîtres. Les rédacteurs avaient peut-être un certain sens critique, mais avec elle, ce serait une autre affaire. Elle ne lui répondrait pas par un mot de refus stéréotypé et serait capable de reconnaître quelques mérites à ses textes, même si ceux-ci ne correspondaient pas exactement à ses propres goûts littéraires. Elle lui parlerait comme un être humain, avec son brio habituel, et surtout, se ferait une meilleure idée du vrai Martin Eden. En perçant à jour son cœur et son âme, elle commencerait à comprendre un peu mieux de quoi étaient faits ses rêves et de quoi il était capable. Martin sélectionna quelques copies au carbone de ses nouvelles, hésita, puis ajouta son chant de la mer. Ils enfourchèrent leur bicyclette par un après-midi de la fin juin et partirent pour les collines. C'était la deuxième fois qu'il s'en allait seul avec elle et, tandis qu'il pédalait dans la tiédeur de l'air, tempéré par une agréable brise marine, il se dit que le monde était beau et bien ordonné, qu'il y faisait bon vivre et aimer. Ils laissèrent leur bicyclette sur le bord de la route et montèrent au sommet d'un tertre brun où l'herbe brûlée de soleil sentait bon la moisson et le bonheur d'être. « Son travail est fini, » dit Martin comme ils s'asseyaient ensemble, elle sur la veste qu'il avait étalée pour elle, lui alangui près de la terre chaude, humant la douce odeur de prairie qui entrait dans son cerveau et faisait tournoyer ses pensées du particulier à l'universel. « Elle a accompli sa raison d'être, » poursuivit-il en palpant affectueusement l'herbe sèche. Elle a poussé avec vigueur sous les terribles pluies de l'hiver et les premières ardeurs du printemps. Elle a fleuri, attirant insectes et abeilles. Elle a éparpillé sa semence, a rempli la fonction que le monde lui avait impartie et... Pourquoi faut-il toujours que vous regardiez les choses avec un tel pragmatisme? Peut-être parce que j'étudie l'évolution? À vrai dire, je commence seulement à savoir regarder. J'ai l'impression que vous perdez le sens de la beauté avec toutes vos théories, que vous la détruisez comme les enfants qui, en voulant attraper des papillons, froissent leurs jolies ailes. Il secoua la tête. Au contraire, avant je ne savais pas que la beauté avait un sens. Je l'acceptais comme telle, comme une réalité sans rime ni raison. J'étais dans l'ignorance. À présent je sais, ou plus exactement je commence à savoir. Cette herbe me paraît beaucoup plus belle maintenant que je sais pourquoi elle est herbe. Par quelle alchimie du soleil, de la pluie et de la terre, elle est devenue ce qu'elle est. L'histoire naturelle est un vrai roman d'aventure, vous savez. Je trouve ça palpitant. Quand je pense à l'interaction des forces et de la matière, au terrible combat qu'elle se livre, il me semble que je pourrais écrire une épopée sur l'herbe. « Comme vous parlez bien, » dit-elle d'un air absent, mais en le regardant avec insistance. Confus et gêné, il sentit le rouge lui monter au front. « J'apprends à parler, » balbutia-t-il. « J'ai l'impression d'avoir tant de choses à dire. Trop de choses. Je n'arrive pas à exprimer ce que j'éprouve vraiment. Parfois, il me semble que le monde entier a élu domicile en moi et me demande d'être son porte-parole. Je ressens... Comment décrire ça? J'en ressens toute la grandeur, mais dès que j'ouvre la bouche, je bredouille comme un bambin. C'est une tâche ardue de transmuer la sensation en langage, écrit ou parlé, et de la transmettre sans la fadir au lecteur ou à l'auditeur. Une noble tâche. Voyez, j'enfouis mon visage dans l'herbe et les senteurs qui emplissent mes narines me communiquent des milliers d'images et de pensées. C'est l'odeur de l'univers que je respire. J'en sais les chansons et les rires, les joies et les peines, les combats et la mort. Je voudrais pouvoir dépeindre, pour vous et pour le monde, les visions que fait naître en moi l'odeur de l'herbe. Mais comment faire? Ma langue est ligotée. La preuve, malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à vous faire ressentir ce que je ressens en ce moment. Tout au plus vous en ai-je donné une petite idée. Je suis un bègue dévoré du désir de parler.
Il leva les mains au ciel en signe d'impuissance.
À quoi bon? C'est impossible, incompréhensible, incommunicable.
« Mais vous parlez très bien, » insista-t-elle. « Songez à tous les progrès que vous avez faits depuis que je vous connais.
Monsieur Butler est considéré comme un orateur remarquable. Le comité d'État lui demande toujours de prendre la parole dans les campagnes électorales. Eh bien, l'autre soir, au dîner, vous avez été aussi éloquent que lui. Seulement,
Il sait se contrôler, alors que vous vous laissez emporter. C'est une simple question d'habitude. Vous feriez un excellent orateur, je vous assure. Vous pourriez aller loin, si vous vouliez. Vous êtes un meneur d'hommes et je suis persuadé que vous êtes capable de réussir tout ce que vous entreprenez, comme vous l'avez fait pour la grammaire. Vous seriez un bon avocat et un brillant politique. Vous avez tout pour réussir aussi bien que M. Butler. Moins la dyspepsie, ajouta-t-elle avec un sourire. Ils bavardèrent. Avec une gentille insistance, elle revint à la nécessité d'acquérir des bases classiques et au rôle décisif du latin dans toute carrière. Elle lui brossa un portrait de l'homme idéal, très inspiré de l'image de son père et dont plus d'un trait était emprunté à M. Butler. Il l'écouta attentivement, couché sur le dos, en suivant avec ravissement les moindres mouvements de ses lèvres. Mais si ses oreilles étaient ouvertes, son cerveau restait fermé. Le portrait qu'elle lui proposait ne le séduisait pas du tout. Deux douleurs se mêlaient, le mal sourd de la déception et la vive morsure de l'amour. À aucun moment, elle n'avait fait allusion à ses textes et les manuscrits qu'il avait apportés gisaient oubliés sur le sol. Enfin, profitant d'une pause, il regarda le soleil qui déclinait vers l'horizon et ramassa ses feuillets pour en rappeler l'existence à Ruth.
« Oh, je vais oublier, » dit-elle. « Je suis impatiente de vous entendre. »
Il lui lut une première histoire qu'il considérait comme l'une de ses meilleures. Il l'avait intitulée « Le vin de la vie » et il la déclama avec la même ivresse que lorsqu'il l'avait écrite. Il y avait à ses yeux une certaine magie dans sa conception originale et il pensait l'avoir restituée par la magie de ses phrases. Emporté par sa passion, revivant le feu créateur de son premier jet, il se laissait aveugler par son enthousiasme et n'en voyait pas les défauts. Mais Ruth l'entendait d'une autre oreille. En spécialiste, elle détectait instantanément les faiblesses, les exagérations, les redondances du néophyte et le rythme boiteux des phrases mal construites, les allitérations trop emphatiques. Les effets de style trop appuyés lui donnaient une impression générale d'amateurisme. Tel fut son jugement final, amateurisme. Mais elle se garda de le dire et se borna à relever quelques défauts mineurs en déclarant que l'histoire lui avait plu. Il fut déçu. La critique était juste. Il ne le contestait pas, mais il avait attendu autre chose de sa part qu'un corrigé scolaire. Peu importaient les détails. S'il y avait des accros, il apprendrait à les rafistoler. Là n'était pas la question. L'essentiel était le souffle de vie qu'il avait tenté de capter dans son histoire. Voilà ce qu'il lui demandait de juger et non ses erreurs de syntaxe. Il voulait lui faire sentir, partager, vivre les images et les pensées qu'il avait jetées sur le papier noir sur blanc de sa propre main. Eh bien, tant pis. Il avait échoué. Les rédacteurs n'avaient peut-être pas tort, après tout. Il ressentait de grandes choses, mais ne savait pas les transcrire. Il cacha si bien sa déception et accepta ses critiques de si bonne grâce qu'elle ne se douta pas un instant du profond désaccord qui l'animait en réalité. « J'ai intitulé la suivante « Le pot », dit-il en dépliant le manuscrit. Elle a déjà été refusée par 4 ou 5 revues, mais je la trouve bien tout de même. En fait, je ne sais qu'en penser, mais je crois qu'il y a quelque chose. Enfin, à vous de voir. C'est court ? Pas plus de 2000 mots. » Quand il eut fini sa lecture, elle s'exclama.
« Quelle horreur ! C'est affreux ! Absolument affreux !»
Il remarqua sa pâleur, ses yeux ébahis et ses poings crispés avec une secrète satisfaction. Il avait réussi. Il l'avait fait réagir. Ça marchait. Peu importait que l'histoire lui plût ou non, il avait su la captiver, l'émouvoir, la forcer à l'écouter en oubliant les détails. « Mais c'est la vie, » répondit-il. « La vie n'est pas toujours belle. Et cependant, peut-être parce que je ne suis pas fait comme tout le monde, je trouve qu'il y a de la beauté là-dedans. Et même une beauté décuplée par le fait que...
Mais pourquoi cette pauvre femme n'a-t-elle pas ?»
Elle suivait sa pensée et révoltée s'écria
« Oh, c'est dégradant !» Ce n'est pas bien, c'est vil.
Sur le moment, il crut que son cœur s'arrêtait de battre.
Ville. Il n'avait pas pensé à cela. Il n'avait pas voulu cela. Toute son histoire repassa devant ses yeux en lettres de feu et il y chercha en vain de la vilenie. Alors son cœur recommença à battre. Il n'était pas coupable. « Pourquoi ne pas avoir choisi un joli sujet ?» disait-elle. « Nous savons qu'il y a des choses viles dans le monde, mais ce n'est pas une raison. » Elle continua sur le même ton indigné, mais il ne l'écoutait plus. Il souriait intérieurement en contemplant son visage virginal. Elle était si innocente, si foncièrement innocente que devant elle, il se sentait enveloppé par une aura de pureté, fraîche, douce et veloutée comme un rayon de lune. « Nous savons qu'il y a des choses viles dans le monde. » Elle, savoir ça. Il faillit en rire de bon cœur, comme d'une taquinerie d'amoureuse. En un éclair, une vision démultipliée lui remontra les mille et un spectacles réellement vils que la vie et les voyages lui avaient donné à voir, et il lui pardonna de n'avoir pas compris son histoire. Ce n'était pas sa faute si ces choses lui étaient étrangères. Il remercia Dieu de lui avoir permis de naître protégé et de conserver son innocence. Mais il connaissait la vie, ses turpitudes comme ses joies. Il en connaissait la grandeur malgré la fange qui l'infestait. Et bon sang, c'était cette vie-là qu'il voulait décrire. Être sainte en paradis, quoi de plus naturel? Mais sainte dans un enfer de crasse, voilà la vraie merveille. Voilà ce qui rendait la vie digne d'être vécue, voir la grandeur s'élever des cloaques du vice. S'élever soi-même et apercevoir, entre ses paupières encore gluantes de boue, une première lueur de beauté, voir la morbidité, la veulerie et l'abyssale bestialité du monde se transmuter en force, en vérité, en spiritualité. Il saisit au vol une de ses phrases. « La tonalité de l'ensemble tire vers le bas, » disait-elle. « Or, il y a tant de sujets élevés, prenez in memoriam. » Il eut envie de lui citer Locksley Hall, un autre poème de Tennyson. Il eût fait, si une nouvelle vision ne l'eût frappée soudain, la vision de Ruth telle qu'en elle-même. Une femelle humaine, de la même espèce que lui, née du même ferment originel, qui s'était hissée lentement, au fil des millénaires, sur la longue échelle de la vie pour atteindre le sommet absolu et devenir Ruth, l'unique, l'immaculée, la divine route qui lui avait appris à aimer, à désirer la pureté, à goûter au sublime, lui, Martin Eden, qui avait lui aussi surgi de la glèbe, franchi les étapes, subi les épreuves et surmonté les innombrables ratés de la création perpétuelle. Voilà du roman, du merveilleux, de la grandeur, voilà de la matière pour écrire. Les saints du paradis étaient ce qu'ils étaient et ne pouvaient s'empêcher de l'être. Lui était un homme. « Vous avez de l'énergie, » poursuivait-elle, « mais elle n'est pas canalisée. » « Un éléphant dans un magasin de porcelaine, » fit-il en lui arrachant un sourire. « Essayez d'avoir plus de discernement. Tout est une question de bon goût, de finesse, de ton. »« Je vais trop loin, » marmonna-t-il. Elle approuva d'un sourire et s'apprêta à écouter une autre histoire. « Je ne sais pas ce que vous allez penser de celle-ci, » reprit-il. « Ce n'est pas le même genre. » J'ai peur d'avoir visé un peu haut, mais l'intention est bonne. Ne vous occupez pas des détails de style. Je voudrais simplement savoir si vous en saisissez l'idée. Il y a de la grandeur et de la vérité là-dedans, mais je ne suis pas sûr d'avoir su les exprimer comme il fallait. Il lut en la surveillant du coin de l'œil. Enfin, il pensait l'atteindre. Elle l'écoutait sans bouger, le regard fixe, respirant à peine, emporté, croyait-il, par la magie de sa création. Il avait intitulé cette nouvelle « Aventure », et c'était l'apothéose de l'aventure, non pas celle qu'on trouve dans les livres d'histoire, mais la vraie aventure, cette maîtresse sauvage, formidable dans le châtiment et formidable dans la récompense, infidèle et capricieuse, qui demande une terrible patience et un terrible labeur, qui offre le soleil de la délivrance ou les ténèbres de la mort après des jours et des nuits de soif, de famine, de délire, de fièvre, de sang et de sueur, dans un tourbillon d'insectes piqueurs et qui, par d'ignobles contacts, mène vers les cimes aériennes de l'accomplissement ultime. Voilà ce qu'il avait mis dans sa nouvelle, et voilà, pensait-il, ce qui la figeait dans cette écoute attentive. Elle ouvrait de grands yeux, ses joues pâles se coloraient, et le souffle semblait lui manquer. Mais ce n'était pas l'histoire qui la captivait ainsi. C'était lui.
De l'histoire, elle ne pensait pas grand-chose. C'était l'énergie débordante de Martin qui la magnétisait. Le paradoxe était que cette énergie était contenue dans l'histoire elle-même, qui en était le véhicule. Elle ne percevait que le souffle de l'énergie, sans en voir le moteur. Et lorsqu'elle semblait transportée par le texte, elle l'était en réalité par tout autre chose. Une pensée terrible et dangereuse qui se formait peu à peu dans son esprit. Elle se surprenait à songer au mariage, avec une insistance et une ardeur qui l'effrayaient. Cela ne ressemblait pas à la jeune fille qu'elle était. Sa féminité ne l'avait jamais encore tourmentée. Jusqu'alors, elle avait vécu dans le pays onirique des poèmes de Tennyson, sans même deviner ce que les fines allusions de ce maître délicat laissaient entendre des rapports réels entre les reines et les chevaliers. Elle avait dormi profondément, et aujourd'hui, la vie frappait furieusement à sa porte. Que faire? Tirer tous les verrous? Barrer toutes les issues? Ou écouter ses instincts qui la poussaient à ouvrir grand son portail pour inviter le visiteur délicieusement inconnu à entrer? Martin attendit son verdict avec confiance. Il avait beau le connaître d'avance, il fut cependant tout étonné de l'entendre dire « C'est beau, c'est très beau », répéta-t-elle avec plus d'affirmation, après un instant. Bien sûr, c'était beau. Mais il n'y avait plus que cela. La beauté était là au service de quelque chose de plus fort. Il s'appuya sur un coude en silence. Devant ses yeux grossissait la forme noire d'un immense doute. Il avait échoué. Il était bègue. Il avait vu de grandes choses et n'avait pas su les dire. « Qu'est-ce que vous avez pensé de... » Il hésita, se préparant à employer un mot insolite. « De la thématique. » « Elle est assez confuse. C'est ma seule critique sur l'ensemble. J'ai bien suivi l'histoire, mais il y a quelques longueurs. C'est trop verbeux. Vous gênez l'action en introduisant tous ces éléments secondaires. » « Mais c'est la thématique principale, expliqua-t-il avec empressement. La grande thématique sous-jacente qui donne la dimension cosmique et universelle, l'essentiel est là, et l'histoire n'est qu'un prétexte. Au fond, j'étais sur la bonne voie, mais je n'ai pas su tenir la route. Je n'ai pas réussi à suggérer ce que je voulais, mais j'apprendrai avec le temps. » Elle ne le suivait pas. Toute licenciée S-lettre qu'elle était, il l'avait dépassée. Ne comprenant pas, elle imputait son incompréhension à quelque incohérence de Martin. « Vous êtes trop volubile, » reprit-elle. « Mais il y a de très beaux passages. » Il écoutait distraitement, accaparé par un autre dilemme. Devait-il ou non lui lire le chant de la mer? Il était perdu. Elle aussi. Ses idées de mariage, aussi importunes que hardies, continuaient à la tracasser. « Vous voulez être célèbre ? » demanda-t-elle tout à coup. « Oui, un peu, avoua-t-il. Ça fait partie de l'aventure. Ce qui compte, ce n'est pas la célébrité en soi, mais le processus qui permet de l'acquérir. Après tout, ce ne serait pour moi qu'un moyen de parvenir à autre chose. C'est pour ça que je désire tant être célèbre. Pour vous, » voulut-il ajouter, et eût-elle montré plus d'enthousiasme pour ce qu'il lui avait lu, il l'eût fait. Mais elle était trop occupée à lui chercher une carrière pour lui demander des précisions sur cette autre chose à laquelle il faisait allusion. La littérature n'était pas une carrière pour lui. Elle en était convaincue. Il l'avait prouvé aujourd'hui avec son amateurisme de collégien plumitif. Il parlait bien, mais il n'avait pas la veine littéraire. Il ne résistait pas une seconde à la comparaison avec Tennyson, Browning et ses auteurs favoris. Cependant, elle ne lui avoua pas le fond de sa pensée. Elle préférait temporiser. Ce penchant pour l'écriture n'était somme toute qu'une toquade qui lui passerait à la longue. Alors il se consacrerait à quelque affaire plus sérieuse, et il réussirait, elle le savait. Il était trop fort pour échouer, à condition toutefois qu'il renonçât à l'écriture. « J'aimerais que vous me montriez tout ce que vous écrivez, Monsieur Eden, » dit-elle. Il rougit de plaisir. Il avait au moins une certitude, il l'avait intéressé. Et elle ne lui avait pas jeté de mots de refus à la face. Elle lui avait dit que certains passages de ses œuvres étaient très beaux, et c'était là le premier encouragement qu'il eût jamais reçu de quiconque. « Avec plaisir, » répondit-il,
et je vous promets de m'améliorer, mademoiselle Morse. J'ai déjà fait du chemin, j'en ai encore beaucoup à faire et j'y arriverai, même si je dois marcher sur les genoux. »
Il lui tendit un paquet de feuillets.
« Voilà le chant de la mer. Je vous le donnerai quand nous serons chez vous et vous pourrez le lire à loisir. Et il faudra me dire ce que vous en pensez réellement. Avant tout, j'ai besoin de critiques, vous comprenez ? Alors, je vous en prie, soyez franche. »
« Je le serai, »
promit-elle en se reprochant secrètement de ne l'avoir pas été aujourd'hui et en doutant déjà de l'être la prochaine fois.